Ok, bah vas-y, tu peux fermer.
Hashtag baby. Salut les gars, comment allez-vous? Salut les filles, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. Sur internet, c'est tout le temps l'heure de regarder un contenu. Et donc, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous étiez déjà nombreux à regarder la première émission d'Hashtags, la deuxième aussi, et voici donc la troisième émission d'Hashtags. Alors, pour cette émission, toujours des rubriques que je vais vous faire découvrir. Vous pouvez cliquer là juste en dessous dans la description YouTube. Si on est sur YouTube, vous pouvez cliquez dessus, il y a marqué le à quel moment se commence chaque rubrique. Comme ça, vous embêtez pas, parce que là, ça dure 20 minutes ou plus. Et ben, vous cliquez, comme ça, vous regardez que les minutes qui vous intéressent. Ok, je sais que le temps est précieux dans l'ère des réseaux sociaux. Alors, pour commencer, nous allons aller dans la première rubrique tout de suite. Hashtag. Pour cette première rubrique hashtag, je voulais vous parler de la F8. Vous savez, la F8, c'est la conférence qui a lieu tous les ans par Facebook en avril ou mai, généralement, que donne Mark Zuckerberg avec ses équipes concernant donc les évolutions bien de la célèbre trilogie Facebook, WhatsApp, Instagram. Finalement, moi, je préfère regarder les keynotes de Line et WeChat, les réseaux asiatiques qui sont beaucoup plus loin en termes d'avancée que finalement Facebook. Mais bon, on va s'attarder un petit peu sur ce que Mark Zuckerberg nous a présenté. Alors, il a fait une blague qui n'était pas drôle en disant que la sécurité chez nous, oui, c'est vrai qu'on n'était pas connu pour être très fort là-dedans. Attends, excuse-moi, il y a plus d'un milliard de gens sur Facebook, tout cet écosystème. Au bout d'un moment, mon gars, faut prendre les choses au sérieux. Donc, la sécurité, la confidentialité, c'est surtout ça. Mais la confidentialité, les mecs, faut arrêter l'hypocrisie. Sur Internet, comment se rémunère un site Internet qui est gratuit comme Facebook? Bah, en revendant les données des utilisateurs. Il faut arrêter de dire que c'est Facebook qui a créé ça, puisque avant Facebook, il y a eu tous les sites Internet depuis le début d'Internet qui font ça. Sinon, c'est pas gratuit un site Internet. Pourquoi? Quand on va regarder un article dans les échos ou où tu veux, c'est gratuit. Alors, des fois, c'est pas gratuit parce que tu payes un abonnement maintenant. Mais si c'est gratuit, c'est parce qu'ils revendent le data de la personne qui vient, son historique de navigation, les cookies. C'est pas pour manger les cookies. Bon, bref, vous le savez, vous êtes des professionnels du digital, mais faut un peu expliquer tout le temps aux gens autour qui disent « Ah, mais sur Facebook, j'ai mis la photo de mon enfant, je vais me la faire piquer. » Et puis après, Mark Zuckerberg, il va la garder, il va la mettre je sais pas où avec des pédophiles. Mais non, Mark Zuckerberg, il s'en fout de nos photos d'enfants. Il s'en fout complet. Ce qui intéresse, c'est de savoir que tu as un enfant de tel âge pour te vendre les couches que Pampers veut vendre aux enfants de tel âge. Voilà. Bon. Donc, c'est ça, la publicité, le business model. Donc, on ne va pas le changer comme ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il nous a dit qu'il refond, il fait une refonte du réseau social Facebook, donc de l'appli. Alors, ce qui met plus en avant, c'est le groupe. Alors, le groupe Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une entreprise, moi, je préfère le conseiller finalement d'avoir un groupe. Mais le groupe, il ne faut pas qu'il porte le nom de la société. Il faut qu'il porte le nom d'un intérêt particulier. C'est une communauté de... Et c'est là l'intérêt d'avoir un axe de com qui soit adossé à une communauté. Par exemple, Nike, c'est le club des gens qui se dépassent, le dépassement de soi. Donc, c'est facile de trouver, de créer une communauté. Starbucks, c'est les gens qui s'inspirent. Donc, c'est facile aussi. Carlsberg, c'est l'amitié. Donc, c'est facile de créer un club de l'amitié. Vous savez, ils font des campagnes autour de tests d'amitié. Donc, eux, ils peuvent créer facilement des groupes. Mais alors, vous, si vous avez une entreprise et que vous ne savez pas comment créer un groupe, parce que si vous créez un groupe avec le nom de votre boîte marqué dessus, il y aura qui va s'inscrire? Uniquement certains employés encore. Il y en a plein qui ne veulent pas adosser leur Facebook personnel à une entreprise sur Facebook. Donc, il est important là maintenant, parce que le reach a baissé. Moi, je suis à peu près à 2%. Vous êtes à combien de pourcentage de vos abonnés qui voient vos posts? Moi, je suis à 2%. On est à 5% il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est 2% quand je ne paye pas pour toutes les marques pour lesquelles je travaille. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un groupe, parce que quand vous avez un groupe, eh bien, vous aurez un reach qui va, à mon avis, être aux alentours de 30-40%, ce qui est déjà beaucoup mieux, de façon organique, hein, sans payer. Donc, il faut créer un groupe. Mais pour créer un groupe, il faut qu'il y ait un intérêt. Une marque comme Leroy Merlin, par exemple, qui n'a pas vraiment un axe de com, si vous voulez, basé sur une philosophie comme le dépassement de soi ou l'amitié de Carlsberg, qui, eux, par contre, est sur des groupes d'expertise. Donc là, c'est bien. Vous pouvez aussi entrer là-dedans en B2B, B2C aussi, être sur l'expertise, un groupe sur les experts de tel domaine. Là, oui, ce sera bien. Donc là, ça va marcher. Donc ça, c'est bien. Donc le groupe est mis en avant maintenant sur Facebook, le nouveau Facebook, parfait. D'ailleurs, le groupe, c'est participatif, donc ça permet de créer des produits ensemble avec les prospects qui s'appellent maintenant les fans et qui seront... D'ailleurs, fan, c'est même des fois un terme trop fort qui rebute un peu les gens à cliquer sur j'aime. Alors que le groupe, vous voyez, c'est juste on rejoint un groupe, c'est pas pareil, il y a moins d'investissement affectif. Donc c'est pas mal pour les entreprises qui ont eu l'habitude de communiquer sur l'expertise et pas trop sur le côté affect. Bon, donc très bien. Alors, autre chose aussi, Facebook se lance dans le dating. Le dating, c'est, vous savez, les dates, c'est la drague en fait. Alors, la drague, le marché de la drague depuis des années, mythique, historique. Il y a eu Tinder un beau jour qui s'est servi d'ailleurs de l'API de Facebook pour pouvoir révolutionner le monde de l'ajout des gens qu'on veut draguer. Donc là, maintenant, Tinder est devenu payant avec le temps. Il y a des offres d'abonnement. Tous les sites, il y a un site qui s'appelle Bubble ou Bumble là, qui permet aussi de rencontrer des gens, mais il y a aussi un système payant. Et là, Facebook nous dit qu'il lance Facebook Dating et qui va permettre de rencontrer des gens en fonction de nos intérêts. C'est-à-dire que vous, en fonction des pages que vous aimez, etc. C'est un peu ce que fait Tinder. D'ailleurs, quand on va voir le profil de quelqu'un sur Tinder, on voit les pages Facebook qu'il aime. Donc, c'est pas mal cette idée qu'a Facebook. Maintenant, on attend de voir si ça va être payant ou pas. Si ce n'est pas payant, mais alors là, c'est la fin de tous ces sites, de toutes ces applis de rencontre, à mon avis. Parce que, alors attention, ça va se jouer sur une chose. Si Facebook Dating isole bien le compte Facebook ou le verrouille bien tant que quelqu'un n'a pas décidé de vouloir discuter avec vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait, en fait, je pense que ce qui devrait être mis en avant, c'est qu'il y ait la possibilité, en fonction des intérêts, on va vous dire, voilà, vous avez X, il faudrait donner que le prénom, pas le prénom et le nom. Facebook, il faudrait marquer que le prénom. S'il n'y a que le prénom et qu'on peut décider, bah tiens, il s'appelle Michel, elle a tel âge et elle aime telle page comme moi, tel truc et tout. Ah, je clique. Et si cette personne veut bien aussi discuter avec moi, là, on va se parler. Et puis là, on verra un peu plus qui on est. Mais ce qui me dérange là-dedans et ce qui, à mon avis, va déranger le plus les gens là-dedans, c'est un peu comme le marketplace par rapport au bon coin. Les gens, des fois, ils n'ont pas envie que leur compte Facebook soit lié à une personne avec qui on n'a pas forcément envie de garder contact sur le long terme. Donc c'est ça le problème. Tinder, tous ces autres applis de rencontre, finalement, si on ferme, on décide de bloquer quelqu'un, personne ne pourra pas vous retrouver. Alors que sur Facebook, il y a quand même cette possibilité de retrouver après si on a pris contact une fois, vous voyez. Donc attention là, moi je suis pas sûr que Facebook Dating, ça peut être bien pour points positifs, c'est gratuit, ok, ça peut être très bien puisque c'est gratuit, mais de l'autre côté, attention parce que le droit à l'oubli là-dedans, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je suis dubitatif là-dedans, mon cher Marco Zuckerberg, ok? T'es un peu trop gourmand, Marc, tu veux tout faire, mais attention, les gens ils veulent pas que tout soit lié dans leur compte Facebook. Bon. Mais s'il y a une appli maintenant qui se lance et qui repermet du gratuit pour de la drague, ça marchera. Alors, il y a aussi une chose que j'ai vue, c'est que Messenger, maintenant, c'est sur desktop, c'est-à-dire sur le bureau. Mais ça, c'est pour les vieux. Ça prouve bien que Facebook vieillit. Parce que qui est sur desktop pour que du Messenger? Alors, c'est pour les vieux et c'est aussi... pour les plus jeunes qui sont en cours, les étudiants, etc., qui ne veulent plus avoir Facebook le mur, mais qui veulent garder que Messenger. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, la trajectoire de Facebook pour les jeunes, j'entends les jeunes donc jusqu'à 25 ans, 30 ans, allez, c'est un peu la destinée qu'a eu MSN, avec MSN Messenger. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où il y avait les blogs MSN, ça marchait, puis d'un coup, on a senti que ça allait plus, parce qu'il y avait la génération des blogs comme Blogger, etc., qui est arrivé. Je parle des années 2000. Et donc, il y a MSN Messenger qui a été isolé. Et là, MSN Messenger, ça a énormément fonctionné pendant des années jusqu'à ce que Facebook lance le chat qui a tué Facebook, qui a tué MSN. Donc, je pense que c'est une technique pour à la fois les personnes les plus âgées qui ont plus l'habitude d'être sur l'ordinateur de bureau quand on est retraité, etc. C'est le support le plus confortable. Et pour les étudiants aussi qui délaissent un peu le mur et qui ont envie de le délaisser. Voilà. Puis, dernière chose par rapport à la fuite, c'est Instagram qui décide de peut-être enlever le like, qui le teste au Canada là en ce moment, d'enlever le like des photos pour pas qu'on voit le nombre de likes qu'il y a eu, etc. Ça, moi je trouve ça bien parce que ça enlève toute la partie jugement et anxiété que l'on a entre utilisateurs, en fait, parce que on a envie de savoir combien de gens nous aiment, c'est anxiogène si on n'a pas assez de j'aime, etc. Donc voilà, on a l'impression que nos photos sont jugées en tant qu'utilisateurs. Et c'est un peu la force qu'a Snapchat, parce que Snapchat, on arrive, on est cool, on n'est pas jugé, en fait. On voit combien de gens regardent, mais on ne sait pas s'ils ont aimé ou pas aimé. Voilà, on est un peu plus libre, on n'est pas, c'est pas anxiogène. Mais en faisant ça, en enlevant le like, en enlevant le compteur, le problème, c'est que les gens, ils ouvriront moins l'appli, parce que quand vous postez une photo, qu'est-ce que vous faites 2 minutes après? Vous l'ouvrez, la photo, voir s'il y a eu des gens qui ont aimé. Puis on la réouvre et réouvre et réouvre. Et ça fait qu'on passe énormément de temps dans l'appli. Regardez Snapchat maintenant, c'est peut-être pour ça qu'il y a finalement moins de gens qui lancent l'appli qu'avant. En tout cas, chez une grande partie de gens. Parce qu'il y a toujours les ados, les pré-ados qui sont à fond sur Snapchat, c'est leur réseau. Mais les gens plus âgés, bah, ils y vont moins. Parce que finalement, il y a moins de... les gens n'avaient pas de jugement, donc on a moins de raisons d'y retourner comme ça, si ce n'est voir ce que les autres font. Mais les autres font ce que les autres font, ils le mettent aussi sur Instagram. Donc on n'a plus l'impression de louper quelque chose, vous voyez. Donc attention Instagram à ça. C'est bien et c'est pas bien. Pour cette nouvelle rubrique qui va s'appeler Top Social, je reçois une invitée de marque, ma petite sœur, ma sœur, Elsa Fanelli. Donc Elsa, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier aujourd'hui ?
Alors bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je suis en charge de la stratégie social media et de toute la stratégie digital content pour le groupe Antalis, qui est donc le premier groupe dans la distribution de supports de communication et solutions d'emballage, donc à destination d'autres entreprises. D'accord. Voilà, donc c'est un groupe que j'ai eu la chance d'intégrer il y a près de 14 ans maintenant, et pour lequel je travaille aujourd'hui en pleine transformation. Première chose, en réalité en B2B, le canal social media est très important. Enfin, la question ne se pose même plus, puisqu'aujourd'hui on sait que 3 acheteurs sur 4 en B2B fréquentent les réseaux sociaux pour justement se mettre en contact avec d'autres personnes dans le monde professionnel, pour avoir des avis sur des produits, sur des fournisseurs, pour mûrir finalement dans leur parcours d'achat. Donc Antalis a bien entendu pris en compte ce nouveau paradigme, je dirais, et donc a bien entendu intégré le social media dans une stratégie beaucoup plus globale, qui est une stratégie d'inbound marketing. L'idée étant justement de suivre le parcours d'achat du client en lui apportant tel un appât du contenu à valeur ajoutée qui va venir l'aider à mûrir sa décision d'achat pour enfin choisir sa bonne source d'approvisionnement.
D'accord. Alors comment tu structures ton approche des réseaux sociaux pour le groupe Antalis ?
Alors on a choisi évidemment des plateformes qui sont clés pour nous. Aujourd'hui on a une présence qui est bien définie sur des plateformes bien spécifiques. On est présent sur LinkedIn où on va pousser du contenu qui va être beaucoup plus au niveau de la trends, au niveau aussi de nos news corporate, et également tout ce qui est employer branding sur, donc sur la marque Antalis en tant que telle. Après on va être présent également sur Twitter qui est of course un vecteur aujourd'hui de la breaking news et pour tous nos events, en fait, pour pousser tout le live. On a également une forte présence sur Instagram pour la partie beaucoup plus inspirationnelle. Aujourd'hui, en fait, avec nos supports et essentiellement avec nos papiers de création, on réalise des choses magnifiques avec nos clients. Et donc, Instagram permet d'avoir une vitrine et de montrer à d'autres potentiels clients ce qu'on peut faire avec nos supports. Donc, c'est pour nous un média média qui va être plus le média de l'engagement, où on va vraiment être en relation avec nos clients et on va vraiment réaliser finalement un patchwork de tout ce qu'on sait faire à ce niveau-là.
Parce qu'en fait, là, en Thalys, en B2B, sur Instagram, il y a du B2B en fait chez
bien
vous,
entendu.
Tout ce qui est architecte d'intérieur, c'est ça.
Voilà,
ces,
en fait,
ces métiers-là.
Sur cette plateforme, parce qu'on a plusieurs typologies de plusieurs divisions et du coup on s'adresse à plusieurs typologies de clients, mais par exemple sur Instagram, sur cette partie-là, on va surtout s'adresser aux imprimeurs, aux designers, aux agences de com,
c'est
aux décorateurs d'intérieur, et en fait tous les gens qui ont besoin d'inspiration avant de avant de passer à l'acte d'achat. Donc on a vraiment un relationnel qui est très important sur cette plateforme avec, avec ces clients-là.
Et YouTube ?
Alors YouTube, bien entendu, en B2B, je dirais qu'après LinkedIn, c'est vraiment... S'il fallait choisir deux plateformes aujourd'hui par manque de ressources ou de budget, ce serait LinkedIn et YouTube. Évidemment complémentaires, YouTube aujourd'hui c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google. Ça permet en tout cas en B2B de mettre à disposition des vidéos sur la partie tutoriel, la partie démonstration produit. Donc nous, pour nous c'est vraiment en tout cas un canal aujourd'hui que, qu'on aborde de manière très très sérieuse, dans le sens où en plus on a des chaînes dans chaque pays. Et avec des playlists bien définies et du coup on commence à développer des studios photo vidéo dans, dans toutes nos filiales.
Alors par exemple, je vais te demander un exemple concret sur, sur Twitter par exemple, comment, quelle est la stratégie de tu as parlé que c'est les breaking news, donc on sait que c'est l'actualité, donc forcément tu as peut-être les RP, les différentes cibles, mais comment toi tu l'envisages au quotidien, comment ça se passe pour Twitter en fait?
Twitter, on est vraiment, on l'utilise, c'est vrai, beaucoup pour... En fait, on fait énormément d'événements. Antalis, c'est un des, des acteurs dans le domaine qui fait énormément d'événements parce que au-delà finalement du digital et de la mise en relation sur ces plateformes avec nos clients et nos potentiels clients, donc on fait énormément d'événements. Et en fait, Twitter va vraiment nous aider à relayer ces événements en mode live. Donc, on l'utilise en effet pour les breaking news, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est surtout pour nous, c'est un peu la, un peu la chaîne... Enfin, j'ai parlé de YouTube précédemment, mais Twitter, ça va être vraiment le live, la chaîne live.
Bah écoute, merci Elsa, je te donne rendez-vous au numéro suivant.
Avec grand plaisir.
Cool. Digital Tools. Alors vous le savez, dans Digital Tools, on voit, on regarde un outil du digital qui peut être intéressant pour tous les gens qui sont dans la communication, le marketing, les chefs d'entreprise, etc. Alors, l'outil là, dont je voulais vous parler, il est idéal pour les médias planeurs, pour tous les gens qui ont un projet à préparer à plusieurs, c'est Airtable. Airtable.com, regardez, c'est ça. C'est un outil qui permet de créer des plannings. Ces plannings vont être par exemple des plannings pour lancer un produit. Vous avez des templates en fait dans Airtable, vous sélectionnez les templates ou vous créez vous-même vos propres templates. Donc dans ces templates, il y a donc des plannings qui, dans lesquels on peut mettre bien sûr des noms de chaque personne qu'on va inscrire dedans, des horaires, on va mettre du texte, du contenu, etc. Ça fait aussi tableur Excel, donc c'est vraiment très bien parce que ça permet de vraiment de quand on a un projet, alors je sais qu'il y a Slack par exemple que j'utilise beaucoup, mais ça c'est bien pour la discussion, pour s'échanger des emails, pour pas perdre le fil dans une logique d'un email, parce que si on le ferait par un email, des fois avec des collaborateurs, on va avoir plusieurs thématiques de discussion qui vont en fait se noyer dans un même mail, alors que dans Slack, on peut ranger les mails. Mais là, c'est pour aller plus loin, sans complément. C'est-à-dire que Slack doit être en complément, à mon avis, de MyAirtable. Slack, c'est pour discuter sur des sujets différents qu'on va ranger dans des hashtags, vous connaissez le principe de Slack, alors que My Airtable, c'est pour vraiment construire le projet. Par exemple, je connais quelqu'un qui, dans une école, l'utilise pour préparer ses plannings de cours. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, pour cette année-là, la troisième année, il y aura des cours de telle chose, telle chose, telle chose. Dans ce cours-là, ça va être telle personne, ça va être tel jour, telle heure, etc. Et il a réussi à plugger ce système de planning, qui est indépendant du système interne de planning de son école, il a réussi à le pluguer à son école pour que ça puisse intégrer ce qui s'y fait. Donc c'est vraiment super, il y a plein de templates. Dans les templates, regardez, j'étais en train de regarder là sur leur site, vous avez par exemple un template qui permet aussi de suivre les campagnes publicitaires, les budgets que l'on consacre dessus. Donc ça, c'est vraiment très bien. Par exemple, pour partager ça à vos clients, quand vous êtes une agence social média, une agence de com, partagez vos, le budget de pub pour que ce soit plus clair et qu'on puisse bien le suivre. Aussi, les plannings éditoriaux. Vous savez, les plannings de Social Media Manager, finalement, vous pouvez le faire là-dessus. Donc, MyAirtable, très bon choix, très bon outil, agréable à regarder, beaucoup plus agréable qu'un Excel. En plus, Excel, moi, je trouve qu'il y a trop souvent de bugs, etc. En plus, entre PC, Mac, etc., il y a des formules qui se perdent. Là, vous avez quelque chose d'uniforme. PC, Mac, on s'en fiche. Très bien. Donc, MyAirtable, je vous le conseille. Real R&B. It's time now to talk about real R&B. Okay, so I wanted to talk about a group that I really love that is coming back now. It's Drew Hill. Do you know Drew Hill? Drew Hill is the group of Cisco. Everybody knows Cisco since 1999 when he released Tongue Song, you know, the song, that song. Everybody knows him, the guy with the blonde hair. So he's still in the game, he's still doing dancing, still singing really good. And his group has new members. They used to be four or five at the beginning, now they are four. And there are two new members since last year. They integrated two members. They have two new members. Those two new members are actually famous. Well, not everyone knows them, but they should know them. They have to know them. Those two guys are named Smoke and Black. Smoke and Black were part of that group. Look. Player. Player was the first group produced by Timbaland. They penned song for Genuine, like Pony, for Aaliyah. All the hits of Aaliyah were penned by Static Major, who was part of Player. Static Major is the same guy that you see in the Lollipop video of Lil Wayne. That was maybe the one first trap song, you know, that was so famous. Unfortunately, he died in 2008, 11 years ago now. And I remember the day that I heard that he died, he passed away. Smoke, who is a friend of mine, called me and we talked about it. It was really sad because Static Major was one of the best. And I'm so glad that Drew Hill didn't forget that group and decided to invite Smoke and Black, and they are now making a new album together. The group is Drew Hill, it's not Play and Drew, it's Drew Hill, but they are making an album together called, I don't have the name of the album, but I just know that Troy Taylor produced him. Troy Taylor, if you don't know him, is the guy who produced Boyz II Men, Whitney Houston, all the best R&B artists who work with them. And Troy Taylor produced Trey Songz. It was still his artist. So I'm happy that's for my friend Smoke, because I know Smoke because he signed me to his label 13 years ago. I came to his city, Louisville, Kentucky, and we recorded many songs together. We have now 40 songs together since 2006 that you can listen on Spotify, everywhere. And I'm so glad for him because he's one of the best vocalists I know. I remember that even Maxwell, the famous R&B artist, said that Smoke was a crazy singer. So I'm happy for him. I just hope that this new album is going to be huge. I'm sure that it's going to be huge in terms of quality, but just in terms of communication. So I hope they are mixing the old sound of the 90s and the new sound of now, so it can be mainstream, you see. So congrats, Drill. I just hope to see you in Paris soon. Yeah.
quantité de choses qui donnent envie d'autre chose. On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, faut voir comme on nous parle, comme on nous parle, oui, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage et tristes sans aucun avantage. On nous afflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, pour des, alors qu'on est. Foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, que des choses pas commerciales. Faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Oh. Hey, yeah. Une foule sentimentale, avec soif d'idéal.